Dans 20 secondes, il sera 8 heures.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et le journal de 8h, c'est avec Virginie Fulpin.
Répétition générale, c'est dans l'aube qu'on prépare le parcours de la flamme olympique ce matin sans allumer la torche. Comment peut-on mieux sécuriser les espaces numériques des écoles? La question se pose après la cyberattaque qui a menacé une cinquantaine de lycées hier. Et puis, que doit faire l'Union européenne des céréales russes? Leur imposer des droits de douane ou mettre en place un embargo?
Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar qui nous parlera du rejet par le Sénat du CETA, suivi de l'invité de la matinale, l'académicien et romancier Jean-Marie Roir, qui lui évoquera la colonisation et l'Indochine, décor de sa pièce qui se joue au théâtre Montparnasse, le bar de l'Oriental, et bien entendu, avec Jean-Marie Roir, nous reviendrons sur la disparition de Frédéric Mitterrand. Dans une demi-heure, la flamme olympique va commencer son parcours.
Alors, ça n'est qu'une répétition. Pour l'instant, la vraie flamme arrive le 8 mai à Marseille, avant de parcourir la France et d'arriver à la Vasque pour l'allumer. Mais ça se prépare, tout ça. Répétition grandeur nature dans l'aube ce matin, avec 400 policiers et gendarmes mobilisés, Diane Berger.
La torche sera éteinte, mais sinon les conditions sont celles du vrai relais de la flamme. Et si le test a lieu dans l'aube, les leçons qui en seront tirées sont nationales. Le département a été choisi en raison de son engagement autour du sport, mais aussi de sa géographie, proche de Paris, avec une grande diversité des sites disponibles, du cœur de ville au lac en pleine forêt, ce qui va permettre de tester différents aspects du dispositif. L'objectif, vérifier chaque détail, le fonctionnement du cordon de sécurité, bien entendu, la cohésion des différents services de police et de gendarmerie, le nombre d'agents nécessaires pour courir autour du porteur de la flamme, mais aussi leurs tenues, sont-elles adaptées aux doubles défis sportifs et sécuritaire. Les autorités vont aussi scruter le respect du minutage des opérations, la gestion du trafic routier, les réservations d'hôtels, car le moindre grain de sable pourrait bien enrayer la machine.
Et l'allumage de la Vasque olympique, ce sera le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux.
L'implant cérébral développé par Elon Musk montre ses premiers résultats.
Oui, Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, a posé un implant cérébral sur un premier patient en janvier. Et hier, on a vu ce patient tétraplégique jouer aux échecs par la seule force de la pensée. Le but affiché par le milliardaire américain est de faire en sorte que l'homme ne soit pas dépassé par l'intelligence artificielle, créer un humain augmenté, en quelque sorte, une puce dans le cerveau. Ça vaut bien les explications du docteur Laurent Alexandre, auteur de La guerre des intelligences.
La puce, elle va nous servir de disque dur directement branché sur le cerveau pour augmenter notre mémoire. Elle va nous permettre de communiquer avec Internet sans ordinateur, directement comme si on faisait de la télépathie. Et puis, dans une étape ultérieure, Elon Musk pense être capable d'augmenter nos capacités de réflexion, c'est-à-dire de nous permettre de penser plus vite et de penser à des choses plus compliquées. Son objectif à terme, c'est que n'importe lequel d'entre nous soit capable d'être astrophysicien, physicien nucléaire, très grand mathématicien, de manière à nous permettre de lutter à armes égales face aux intelligences artificielles du futur.
Laurent Alexandre avec Éric Mauban, la technologie dans ce qu'elle a de meilleur. Il y a aussi ce qu'il y a de pire, comme ces lycées d'Île-de-France cibles de cybermenaces. Une cinquantaine d'établissements ont reçu des messages de propagande djihadiste par le piratage de leur espace numérique, Charles Ducrot.
Les premiers éléments laissent penser à la fuite d'un mot de passe selon l'entourage du Premier ministre. Le mot de passe d'un élève subtilisé via un site internet malveillant pour s'introduire dans l'espace numérique de travail. Une méthode d'attaque très répandue, confirme Jérôme Billois, expert en cybersécurité.
Il faut attendre les résultats de l'enquête pour savoir comment les attaquants sont rentrés dans les sites. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait des similitudes dans les méthodes d'attaque qu'on a pu voir avec les dernières attaques, typiquement celle de France Travail, où des logins et des mots de passe avaient été dérobés pour permettre aux attaquants de rentrer sur les sites.
Un audit a été lancé par le gouvernement pour analyser les failles des ENT d'Île-de-France suspendues jusqu'à nouvel ordre. Leurs accès sont peu protégés.
Ce sont finalement souvent des sites internet achetés par les régions. Les sites web sont des cibles usuelles et courantes pour les attaquants dans le cyberespace. Souvent, il n'est pas sécurisé. Et donc, il faut investir pour le mettre à niveau, ce qui représente un challenge à moyen terme.
D'autres établissements de l'Académie de Lyon ont fait l'objet de mêmes menaces via des ENT avec les mêmes messages. Gabriel Attal assure que les auteurs sont traqués. Si l'alerte d'hier a été prise très au sérieux, indique le ministère de l'Éducation, elle n'a donc rien de singulier.
Le Premier ministre a annoncé une future réunion dans quelques jours sur la sécurisation de 150 à 200 établissements scolaires jugés à risque. L'espace numérique, c'est aussi le nouveau terrain de jeu des narcotrafiquants. La vente de drogue via les réseaux sociaux est en pleine expansion. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce la création de cyberpatrouilles pour lutter contre ces nouvelles formes de trafic.
L'Union européenne étudie la possibilité d'un embargo sur les céréales russes.
Alors, il y a deux idées. Celle d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, propose d'imposer des droits de douane sur les céréales venant de Russie. Et puis, il y a celle de 5 pays d'Europe de l'Est qui réclament un embargo sur ces céréales russes. Le président ukrainien salue cette initiative. Ce serait très symbolique politiquement, Éric Kioch.
Mettre un embargo sur les céréales russes, c'est envoyer un message à Moscou. Depuis le début de la guerre, grâce à des rabais monstres sur ses exportations de grains, la Russie a grignoté des parts de marché à l'Europe, explique Arthur Portier, spécialiste des marchés agricoles chez Argus Media.
Les Russes ont gagné beaucoup de parts de marché chez les clients traditionnels, notamment français, avec l'Algérie en tête. Les Russes ont un coût de production plus faible que nous et peuvent déstabiliser un petit peu la santé financière des exploitations européennes.
Le premier client de la Russie en Europe est la Lettonie, l'un des pays à l'origine de cette demande et qui a décidé de couper son approvisionnement. Un accord entre les 27 serait une marque de soutien fort.
L'embargo reste politique entre l'Europe et la Russie, mais aussi probablement entre les États de l'Ouest et la Lettonie, pour dire nous vous entendons et nous sommes avec vous.
Un embargo permettrait de libérer quelque peu la pression sur le marché européen, mais pour que cela soit efficace, il faudrait aller plus loin, selon Damien Brunel, président du syndicat céréalier France Grande Culture.
Ce qu'on demande, c'est de remettre en place des frontières autour de l'Europe pour que l'on sache ce qui rentre. Il y avait 100 euros par tonne de taxes pour toutes les céréales qui rentraient sur le sol européen. Il faut absolument remettre cette taxe.
Une demande incompatible avec le soutien à l'Ukraine. Le message des 27 est clair, cette aide sera aussi longue et intense que nécessaire.
Le conseil d'administration du FMI a approuvé une aide de 880 millions de dollars pour l'Ukraine. Tout faire pour obtenir une trêve à Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Israël aujourd'hui pour tenter d'arracher un accord. Il plaide pour un cessez-le-feu immédiat. Le SIDAction fête ses 30 ans. Aujourd'hui, l'association collecte des fonds au profit de la recherche contre le SIDA. Aujourd'hui encore, environ 5000 personnes découvrent leur séropositivité par an en France. Ce qui désole l'infectiologue Gilles Pialoux de l'hôpital Thénon à Paris, c'est que la majorité de ces nouveaux patients auraient pu être traités bien plus précocement.
Depuis 10 ans, on est autour de 28-30% de gens qui sont dépistés au stade sida, c'est-à-dire le sida des années 80. Ça, c'est hallucinant et ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés dans le système de soins, qui ont été chez le gynéco pour les femmes, qui ont été chez le dermato. On n'est pas réussi à banaliser le dépistage du VIH, c'est-à-dire que ça soit rajouté en bas d'une ordonnance. La durée moyenne de l'infection à laquelle on le dépiste, c'est 7 ans. Et puis, le dernier point, c'est qu'il y a des populations chez qui le nombre de nouvelles contaminations augmente. C'est essentiellement les jeunes gays nés à l'étranger et les personnes trans. Donc, c'est aussi des populations qu'on doit aller chercher, quoi.
Des propos recueillis par Rémi Fister. Et puis, le monde de la culture en deuil. Les hommages se multiplient après la mort de Frédéric Mitterrand. L'ancien ministre de la Culture s'est éteint à 76 ans. Je pense que vous en parlerez, David, avec votre invité de 8h15.
Jean-Marie Rouard, l'académicien, sa pièce, Le Bar de l'Oriental, se joue en ce moment au Théâtre du Montparnasse. Et évidemment, Frédéric Mitterrand, ayant été candidat deux fois à l'Académie française, nous en parlerons avec cet académicien qu'il a bien connu. Et puis, avant cela, il y aura Guillaume Tabar. Le Sénat rejette le CETA. Guillaume nous livrera son analyse. Radio Classique.